Chapitre 29. Jane, le dos collé au mur avec la porte sur sa droite, osait à peine respirer. Le génie, assis derrière son bureau, restait prostré, la tête entre les mains comme un enfant persuadé que le monstre sorti du placard le laisserait indemne tant qu'il ne le regarderait pas. Dans son coin, Inga observait la scène avec une curiosité sauvage, sa crinière blonde lui donnant des allures de déesse de pierre, mi-femme, mi-lionne. L'orage avait fini par s'éloigner, emportant dans son sillage les éclairs et le tonnerre. La pluie qui frappait inlassablement le toit accompagnait de son martèlement les battements furieux du cœur de Jane. Une voix s'éleva sur le palier.
« FBI, tout est fini. Jane, Jane Hawk, vous êtes là? Vous n'êtes pas blessée ?»
Elle éprouva un soulagement sans borne en reconnaissant la voix. Elle s'écartait du mur lorsqu'elle se souvint qu'à l'heure du combat, la raison doit primer l'émotion. Aussi s'aplatit-elle de plus belle contre la paroi.
Nathan apparut sur le seuil et la dévisagea.
Jamais elle ne l'avait vue aussi grave, le teint gris, les lèvres pincées.
« Ils sont tous morts, » lui annonça-t-il.
« Les hommes sans âme comme les agents qui m'accompagnaient. Tous.
Vous allez bien ?»
Il avait le bras le long du corps et tenait dans sa main un pistolet à canon court, qui n'était pas son arme de service. Il s'avança dans la pièce.
« Bertolt Schenek ? Inga Schenek ?»
Le scientifique commit l'erreur de relever la tête et Nathan l'abattit d'une seule balle. Inga bondit de sa chaise, repoussa celle-ci d'une ruade, et Nathan eut besoin de tirer à deux reprises pour la tuer. Même en situation critique, aucune règle n'autorisait un employé du bureau à exécuter des suspects désarmés. Jane leva vivement le canon de son pistolet, à la fraction de seconde où Nathan se retournait vers elle en la menaçant de son arme. Moins de 2 mètres les séparaient. 7 années de respect et d'admiration, d'amitié aussi, l'empêchaient d'enfoncer la détente, alors que le premier qui tirerait aurait seul la vie sauve. La maison tout entière résonnait du déluge au dehors. 10 secondes s'écoulèrent, puis 30, jusqu'à ce que la situation devienne intolérable.
« On n'avait plus besoin d'eux, » déclara-t-il.
Elle attendit la suite.
D'autres poursuivront la tâche de Schenek. Des individus plus fiables.
Elle se trouvait clairement en face de Nathan Silverman, son chef. Le vrai et non un sosie. Le mari de Richona, père de 2 filles et d'un fils. Un individu qu'elle connaissait mieux que quiconque. Il ne faisait pourtant aucun doute qu'il avait trahi. Qu'il était passé de l'autre côté de la barrière. Ou pire encore.
« Comment va Jareb ? » demanda-t-elle.
La mention de son fils le laissa indifférent et il ne répondit pas.
« Et Shaya ? Elle se passionne toujours pour ses études de paysagiste ? Elle est vraiment douée pour ça ?»
Il la regardait avec des yeux aussi sombres que le canon de son arme, de façon hypnotique.
« Elizabeth ? » poursuivit Jane. « Paul et elle ont fixé une date pour leur mariage ?»
Les lèvres de Silverman s'agitèrent en silence au rythme de ses pensées. Sans doute aurait-il parlé s'il n'avait pas su que les mots ne pouvaient plus racheter le passé, ni dessiner l'avenir. Il n'en continuait pas moins à la sonder du regard, à la recherche d'un élément perdu.
« Mon petit garçon. Le petit garçon que Nick et moi avons eu. Il a 5 ans, »
dit-elle d'une voix qu'elle aurait voulu ferme.
« Vous vous souvenez de Travis ? Il voudrait un poney. Mon petit cow-boy. »
Il détourna le canon de son arme et elle sentit passer le souffle de la balle dans le fracas de la détonation à quelques centimètres de son oreille gauche. Elle entendit le bruit mat du projectile s'enfonçant dans le mur. Elle faillit tirer, se retint en comprenant qu'il l'avait volontairement épargné. Il tira à nouveau, toujours à côté, un peu plus haut cette fois. Puis il braqua à nouveau le canon du Kimber sur elle en continuant de la dévisager de cet œil prêt à tuer. Le mécanisme de contrôle était manifestement différent de celui qui avait poussé Nick au suicide. Nathan Silverman n'était pas programmé pour se tuer lui-même. Ses traits se déformèrent sous l'effet d'une angoisse indicible et un nom s'échappa de ses lèvres. Rishona. Déchirée intérieurement, Jane comprit qu'il lui demandait d'accomplir le geste dont il était incapable. Il lui demandait comme un acte d'amour de le libérer de la terrible servitude dans laquelle il était tombé. Au cours de la fraction de seconde qui sépara le geste de l'acte lui-même, elle lut sur son visage le soulagement d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Au prix d'un effort terrible, elle tira à deux reprises, puis une troisième fois sur son corps tombé à terre, afin de s'assurer que l'araignée qui avait pris possession de son cerveau ne puisse plus jamais lui nuire. Au même instant, le battement des pales de l'hélicoptère vint couvrir le hurlement intérieur de son chagrin.